RPL, votre radio Lorraine.
Votre radio Lorraine.
RPL Radio. Toujours plus
proche de vous. RPL. On va parler de cette création mondiale, Enigma, création mondiale à Metz. Donc, opéra de Patrick Burgan. Merci Patrick Burgan, vous qui êtes le compositeur et l'adaptateur, ce qui est peut-être plus rare pour un compositeur, c'est-à-dire que vous avez repris cette pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, Variation énigmatique, pour en faire un opéra.
Oui, bonjour à vous.
Merci. Et puis vous êtes accompagné de Daniel Kafka, qui est la personne qui fait le pont entre les créateurs, la musique, le plateau, donc les chanteurs, le chœur. Et on va donc naviguer dans cette création avec vous deux, et peut-être un invité par téléphone aussi. Donc ma première question, ce travail d'adaptation littéraire, c'est pas forcément habituel pour un compositeur?
Enfin, pour moi, ça l'est, en tout cas, comme ça l'était pour Wagner, je pense, qui n'aurait pas laissé, disons, le soin à quelqu'un d'autre de la matière verbale, dramaturgique, qui lui permettrait de mettre la musique. Et justement, j'allais dire une bêtise, parce que justement, on ne met pas la musique sur des mots. C'est pour ça que... il me semble qu'il est presque nécessaire, en tout cas pour ma part, que ce soit le compositeur lui-même qui adapte et qui choisisse les mots qu'il va, sur lesquels, en tout cas, non, même pas, on ne met pas de la musique sur des mots, j'arrive pas à trouver la formule. Il se trouve qu'en fait, la musique, elle va chercher l'intérieur des mots, si vous voulez. Elle va vers tout ce que les mots ne peuvent pas dire sémantiquement. Et donc, du coup, elle donne aux mots une force qu'ils n'ont pas, ou qu'on peut donner éventuellement avec un ton particulier, mais non, elle va vraiment au cœur des choses, si vous voulez. Et donc, elle va vers l'âme. Et les mots donnent les informations, et la musique nous donne finalement l'évocation de l'âme qui est à l'intérieur des mots, et c'est cette symbiose qui crée un opéra.
Que vous servez.
Voilà, et c'est pour ça qu'il me semble nécessaire que le compositeur lui-même choisisse les mots.
On a une belle surprise, c'était pas totalement sûr. Éric Emmanuel Schmitt qui est en promo pour son nouvel ouvrage, qui est avec nous par téléphone.
Voilà, oui,
si
bonjour.
La technique vous permet. Bonjour et merci beaucoup Éric Emmanuel Schmitt d'être avec nous pour partager ce moment autour de l'opéra et de la création d'Enigma. Vous qui êtes vous êtes en promo avec Soleil Sombre, qui votre dernier ouvrage qui est autour de l'Égypte ancienne. Je voulais vous demander comment, pour vous, s'est déroulée cette aventure. Est-ce que vous avez, c'est pour vous un lâcher prise en fait de confier votre œuvre et de la confier à l'opéra, de la confier à Patrick Burgan?
J'avais très très peur, en allant à cette création. Et pourtant, je suis un amoureux de musique. C'est très important dans ma vie. J'avais entendu des œuvres de Patrick Burgan que j'avais trouvées très belles, mais j'avais quand même peur en me disant est-ce que la musique ne doit pas perturber le suspense, la pensée. Et en fait, j'ai découvert une musique qui justement apportait quelque chose de plus, c'est-à-dire d'abord une atmosphère d'une sensualité extrême, puisque l'orchestre de Patrick Burgan est absolument fascinant. Et ensuite, effectivement, un rapport aux mots qui fait que Patrick Burgan va chercher le sentiment qu'il y a sous le mot. Alors parfois, c'est en opposition totale avec ce que dit le personnage qui ment. Parfois, c'est la profondeur de ce qui se dit. Et puis parfois c'est un développement des phrases qui va plus loin grâce aux moyens de la musique que les mots. Et donc on arrive à des intensités d'émotions extraordinaires. Moi j'ai plusieurs fois eu des larmes aux yeux pendant le spectacle parce que c'était comme si mon texte était chauffé à blanc pour avoir absolument toute sa profondeur.
Et justement, dans le studio, il y a également Daniel Kafka, le chef d'orchestre. Et je crois, en tout cas, à ma connaissance, c'est un des rares opéras où j'ai vu un chef d'orchestre qui a aussi dont vous parliez, Eric Emmanuel Schmitt, c'est-à-dire les larmes qui viennent aux yeux, de cette intensité de développement des personnages. C'est aussi quelque chose que vous avez vécu?
Oui, assurément. Je l'ai vécu dans un premier temps en lisant l'œuvre théâtrale d'Éric Emmanuel, parce que, évidemment, cette rencontre entre ces deux hommes et cette femme absente mais omniprésente est tellement belle, touchante, bouleversante qu'on est déjà, touché à travers les mots. Et puis, cette symbiose, vous en parliez. C'est plus que ça, c'est une union profonde entre le verbe, le son, la matière, l'orchestration, les sensibilités de l'auteur, du compositeur, qui font qu'on se retrouve devant une œuvre rare, d'une intensité rare. Et quand on est un interprète, qu'est-ce qu'on est? On est un réceptacle, hein, on n'est qu'un réceptacle. On est un passeur entre des mondes poétiques, des mondes intérieurs, et c'est irrésistible. Donc voilà, moi en tant que chef d'orchestre, évidemment, quand j'entends cela, quand j'entends ces mots, quand je vois vivre ces personnages comme la vie même, dans cette vérité, puisque c'est ça que cherchent les créateurs, la vérité, et nous interprètes, nous sommes ceux qui faisons résonner cette corde sensible, je peux vous dire qu'on ne sort pas indemne.
Daniel Kafka, d'ailleurs, j'en profite pour dire que vous aussi, vous êtes un homme à l'amour des lettres et vous avez aussi publié un ouvrage, on y reviendra, mais qui est un peu incroyable, qui s'appelle La Chevauchée des étoiles, basé sur vous savez, ce genre de commentaires que peuvent faire certains artistes, metteurs en scène notamment, ou réalisateurs de cinéma, là en l'occurrence, metteur en scène Christian Friedrich, desquels vous avez noté des idées, des phrases directrices. Parfois, ces commentaires que font les metteurs en scène qui paraissent complètement déconnectés, ou en tout cas qui paraissent aller plus loin, et c'est vrai qu'ils regardent avec les yeux de l'âme. J'avais prévu d'en citer un, mais ça, bon, c'est peut-être pas le moment, mais qui vont regarder ce que vous qualifiez aussi, Patrick Burgan, au-delà du texte, va commenter un peu. Aller dans le sens où, à contrario, passer des messages. Justement, tous les trois, vous êtes à la fois des amoureux de musique et des amoureux des lettres, hein, puisque Éric Emmanuel Schmitt aussi a fait toute une carrière parallèle aussi de musique, de piano. Est-ce que vous avez l'impression, tous les trois, que vous êtes croisés dans un film de Lelouch où les planètes se sont alignées et où finalement il y avait quelque chose d'écrit de cette rencontre, de cet amour partagé, tous les trois, de la littérature, de l'amour? Patrick Burgan, peut-être, Éric Emmanuel Schmitt?
Oui, c'est vrai que moi je suis sur un nuage, là, littéralement, parce que c'était une œuvre à la très longue gestation. Ça fait quand même 13 ans que j'y travaille. Et donc, si vous voulez, l'émerveillement de voir cet enfant venir au monde, finalement, avec la création de l'opéra, je suis plus que comblé. La réaction d'Éric Emmanuel Schmitt, évidemment, me ravit. Je suis tellement heureux que justement, il ait cette sensibilité à entendre plutôt ces mots. Comment dire, transformé par ma musique, transmuté, je dirais. Évidemment, l'adhésion de Daniel Kafka me comble aussi, justement, qui a su d'ailleurs, comment dire, faire partager à tout l'orchestre, à tous les musiciens, du premier violon solo jusqu'au tuba, tout l'orchestre est investi aussi dans cette aventure. Je ne parle pas des interprètes, des chanteurs qui sont absolument exceptionnels. Et voilà, moi, je suis littéralement, aux anges.
Et Éric Emmanuel Schmitt, aussi peut-être un hommage à la direction de l'Opéra Théâtre de Metz, Paul-Émile Fourny, qui est à la fois responsable de la programmation de cet opéra, de cette création, du soutien à cette création, de la mise en scène, et qui fait parallèlement aussi la mise en scène de la pièce, donc cette fois-ci la pièce en version non-opéra, en version originale, créée en 96, variation énigmatique. Est-ce que aussi ça a touché ce double hommage quelque part à votre œuvre, Éric Emmanuel Schmitt?
Ben moi, je voudrais vraiment répéter une chose qui est importante, c'est qu'il n'y a pas de compositeur d'opéra s'il n'y a pas de directeur d'opéra. Et aujourd'hui, la composition d'opéra est complètement mise à mal. par le fait que les directeurs d'opéra, à la différence des directeurs d'opéra du XVIIIe et du XIXe siècle, ne commandent plus d'œuvres ou ne créent plus d'œuvres. Le problème ne vient pas des musiciens, le problème vient souvent des instances qui décident, des instances productives. Et alors là, Paul-Émile Fournier, avec l'Opéra de Montréal, a fait très très fort parce qu'il a cru à cette œuvre, et avec tellement de raisons, parce que moi je trouve que c'est carrément un chef-d'œuvre. Hein. Je n'ai pas quitté cette œuvre depuis que je l'ai entendue l'autre jour. C'est un pur chef-d'œuvre. Et puis je trouve que c'est né avec une sorte d'évidence. Ça vient sans doute aussi de Daniel Karka qui avait l'impression de connaître cette musique depuis je ne sais combien de représentations. Ça sortait avec l'évidence d'une œuvre du répertoire. Enfin, c'est né avec à la fois la fraîcheur de la création et le vernis d'un classique. Donc j'étais totalement ébloui. J'avais un sentiment d'évidence. Vous savez, quand on a le sentiment d'évidence, c'est que les choses sont là, les choses existent. Elles se proposent et on n'a qu'à les recevoir. Et alors évidemment, moi je suis très très heureux que Paul-Émile Fournier non seulement ait fait cette mise en scène formidable avec une direction d'acteur fouillée, précise, inventive, et puis qui tout d'un coup il mette en rapport l'énigma de Patrick Burgand avec la pièce dans quelques jours. Donc c'est rare pour une programmation aussi révolutionnaire, quoi, et aussi audacieuse, aussi inventive.
Alors, on va rappeler justement les dates pour les auditeurs. Donc, tout d'abord, la dernière date, mardi 22 novembre, 20h, pour cette dernière chance de voir l'opéra Enigma, basé sur cette pièce qui va être donnée aussi, Variation énigmatique, qui va être donnée aussi les 1er, 2 et 3 décembre à l'Opéra Théâtre de Metz, et comme on le disait, une pensée à Paul-Émile Fournier qui est à la fois à la mise en scène et à la décision de soutenir la création et de ce bel hommage. Je m'interrogeais pour tous les trois. Daniel Kafka, on le disait, vous aviez participé à un livre aussi qui est le fruit aussi d'une période un peu particulière, ces deux années où la culture a été mise à mal, a été confinée, on pourrait dire, pour simplifier. Dans ma question, il y a deux choses. C'est qu'est-ce que vous avez retenu de positif en termes aussi humains et artistiques? Quels ont été les beaux cadeaux de cette période pour vous, et puis peut-être aussi en tant que citoyen, votre réaction au fait que finalement, il ressort maintenant avec le recul que, suite à l'Institut, à l'étude de l'Institut Pasteur, d'une part, et puis du concertès de Bercy, qui ont montré vraiment la non-responsabilité de tous les lieux de culture dans la contamination, qui avaient déjà travaillé sur des protocoles très stricts, est-ce que ça a été juste pour vous juste qu'elle soit autant touchée par la fermeture et les confinements à la culture? Et puis d'autre part, qu'est-ce que dans votre vie, en tant aussi qu'artiste et créateur, quels ont été les cadeaux de cette période pour vous? Comment ça a pu stimuler votre créativité peut-être, Daniel?
Oui, je veux bien prendre la parole. C'est une grande question, hein, à plusieurs volets, mais je vais essayer d'être bref. D'une certaine manière, c'était aussi un cadeau parce que ça a permis le temps de l'introspection. Et quand on est dans le champ d'une activité professionnelle, je ne veux pas dire qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Au contraire, on ne fait que ça, évidemment, pour mener à bien, à terme, une mission artistique. Mais c'était un temps long qui a permis d'aller à l'essence et à l'essentiel. Enfin, pour ma part, je sais ce qui est l'essentiel pour moi, mais peut-être dans ce temps de silence imposé. C'est un temps qui a été aussi pour moi un temps d'écriture, où j'ai pu co-signer cet ouvrage avec Christian Frédéric. Parce que le texte à l'origine de l'opéra qu'on a créé était un texte de Fernando Arrabal. Il y avait une résonance d'Arrabal, et donc j'ai aussi lu Arrabal, comme avec la création d'Enigma, j'ai beaucoup lu et relu les ouvrages d'Éric Emmanuel. Donc c'était un moment d'introspection, et c'était aussi un moment long, dilaté, où j'ai pu me remettre au travail sur des grands ouvrages qui me tiennent à cœur, les grands ouvrages wagnériens notamment. Et puis c'est un moment où tout à coup on a cru collectivement qu'il y aurait, peut-être naïvement, un après, on disait l'après. Et cet après, on le préparait, c'est-à-dire on le préparait psychologiquement à être peut-être plus humaniste, moins consumériste. C'est-à-dire qu'on entrait dans une sorte de... d'attitude, de pensée collective qui donnait à entendre que finalement il y aurait une échelle de valeurs et une relation à l'autre qui sera encore plus profonde et plus intime. Ce livre, c'est un hommage à l'autre en fait. Donc j'en suis sorti personnellement et aussi avec toute l'équipe des artistes avec lesquels j'ai travaillé, orchestre, ensemble orchestral, l'orchestre symphonique Oz, avec un désir d'humanité et de musique pour aller plus à l'essence des choses et se rendre compte que art et l'autre, art, culture, société, eh bien, résonnaient avec l'humanité.
La chevauchée des étoiles, si vous avez envie de vous plonger dedans. Moi, j'ai aimé ouvrir un peu au hasard et à chaque fois comprendre ce qu'a voulu dire le metteur en scène. Il y a toute une riche ouverture à chaque fois. Éric Emmanuel, Patrick, qu'est-ce que, pour vous, quels ont été les cadeaux de cette période ?
Moi, pour la première fois de ma vie, j'ai été condamné à être seulement écrivain. Je fais tout pour échapper à ça. Je voyage, je monte sur scène, je fais des films, etc. Et là, le confinement m'a mis à ma table et m'a mis en face de ce grand projet que j'avais d'écrire La traversée des temps. Et au fond, je me suis engouffré dans cette écriture et j'en étais assez heureux. Par ailleurs, je trouve que la période a été une période bon, très aidée par l'État et ça, il faut encore remercier les institutions de ça parce que dans d'autres pays, la culture a été extrêmement sinistrée. Mais le temps de l'après n'est pas encore vraiment venu, je trouve. La fréquentation quand même des spectacles est encore un peu timide. Les gens ont perdu l'habitude de cette socialité, de ce bonheur, de ce plaisir. Il y a une espèce de rétraction encore du public qui est vraiment dommageable. Alors, c'est d'autant plus dommageable que, comme disait Daniel, pendant ce temps-là, nous, on préparait des belles choses. On préparait des beaux spectacles pour l'après. Et je trouve que, voilà, le public n'a pas encore retrouver cette socialité heureuse qui consiste à aller de découverte en éblouissement en allant voir des artistes vivants sur scène.
Patrick Burgan,
oui,
pour vous qui êtes, je fais le parallèle, on en parlait tout à l'heure, donc le compositeur, mais aussi un orchestrateur, vous avez été reconnu par vos pairs, notamment à travers le Grand Prix SACEM 2008, comme un orchestrateur hors pair pour la musique symphonique, puisqu'en plus vous avez fait deux versions de cet opéra, une version à 12 qui sera pour le Québec, et la version full symphonique, entre guillemets, que vous avez même encore retravaillé pendant la production, et aussi, on peut dévoiler aussi que vous êtes capable, si un musicien est malade, de redispatcher son orchestration sur d'autres musiciens. Donc vraiment une grande réactivité, une grande aisance sur l'orchestration. Pour vous, qu'est-ce que ça a été le cadeau ou les leçons, ou artistiquement aussi, de cette période de deux années de Covid ?
Pendant le confinement, mon épouse venait me voir en me disant « Tu sais, en ce moment, tous les gens sont comme toi tout le temps. » C'est-à-dire qu'ils sont confinés. Parce que moi, le confinement n'a absolument rien changé. Je suis un confiné perpétuel. Le compositeur est dans son bureau. Et en fait, je suis complètement déconnecté du réel, si je peux me permettre. Et je suis immergé en permanence dans la création. De temps en temps, c'est une demi-journée par semaine, je vais faire des cours à l'université. Ça me fait voir de la lumière, ça me fait voir des jeunes, des étudiants, et ça m'émerveille. Mais le reste du temps, en fait, je suis absorbé et je suis confiné tout le temps.
Alors, c'est aussi un lien que je voulais aborder, puisque je parlais de planète et d'alignement tout à l'heure, c'est cette, même si vous dites que vous vivez un peu comme un ermite, en gros,
très bien.
Vous avez tous trois, et j'ai pu aussi avoir le plaisir de croiser Éric Emmanuel Schmitt, qui était venu à Metz pour justement la première, hein, de l'opéra. Cette aisance, tous les trois, à aller à l'autre. Au-delà de l'ego, au-delà des positions qui sont les vôtres, prestigieuses, cette faculté, et là aussi je trouve que c'est une rencontre, une vraie rencontre, cette aisance, cette faculté de se mettre à la portée de personnes que vous croisez dans la vie de tous les jours et de parler à tout le monde. Est-ce que ça aussi c'est un trait commun qui aussi a nourri cette collaboration ?
Ben, Patrick, oui, de toute façon, on est des hommes, des femmes, et donc la relation humaine est primordiale. Et je pense que On ne peut pas être dans l'univers art. Quand je disais que j'étais, vous dites que je suis un ermite, je le suis au niveau de la création, si vous voulez. Mais la relation à l'autre, le rapport humain est essentiel. On ne peut pas faire une grande œuvre avec une dimension universelle si justement on n'a pas ce rapport humain à l'autre.
Éric Emmanuel, vous ressentez aussi cet aspect de votre personnalité et de votre lien à l'autre?
Ah ben créer, c'est rejoindre les autres. Pour moi, écrire, c'est pas vomir, c'est-à-dire me soulager moi. Écrire, c'est proposer quelque chose à l'autre. Donc le souci de l'autre, à la limite, donne une forme à mon texte, donne un ordre à mon texte. Si justement il va y avoir des éléments de suspense ou de surprise dans ce que j'écris, c'est parce que l'autre est impliqué et que je tiens à l'emmener dans mes filets et à le prendre par la main pour tout d'un coup lui faire fréquenter des émotions ou des réflexions qu'il n'aurait peut-être pas fait sans moi qui lui tient la main. Donc l'autre est infiniment présent et moi moi ce qui me surprend c'est pas des artistes comme nous qui aimons les autres. Ce qui me surprend c'est quand les artistes n'aiment pas les autres. C'est là que je dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc bon, voilà, il y a forcément chacun a une histoire personnelle qui peut créer plus ou moins d'aisance à être avec les autres, mais c'est une création, c'est toujours une main tendue.
Daniel Kafka. Kafka avec un W, d'ailleurs je le précise pour les auditeurs qui voudraient chercher votre livre ou chercher des bios sur internet. Ouais, pour vous, ce lien à l'autre que vous rayonnez aussi à travers la façon dont vous connectez les chanteurs, les chœurs, tout l'orchestre et cette grande famille qui travaille autour de ce succès.
Oui, vous évoquiez tout à l'heure, vous parliez d'alignement de planète, j'aime bien ce terme. Il y a effectivement des circonstances dans la vie, des circonstances artistiques qui ont un puissant rayonnement. Et la rencontre avec Patrick, la rencontre avec Éric et Emmanuel, pour moi, la rencontre préalable, c'est-à-dire avec leurs œuvres singulières, respectives, et ensuite œuvres communes, a déjà été un choc. Et puis ensuite, il y a la rencontre avec les hommes, les femmes bien sûr, mais là en l'occurrence avec les hommes. Et pour moi, c'est un enchantement, parce que je sens une telle force vive et une telle bienveillance à l'autre que ça vous donne des ailes. Évidemment, j'ai la responsabilité de diriger, mais le chef d'orchestre, je le disais tout à l'heure, c'est un passeur. Mais quand on a ce capital confiance sur les épaules de Patrick, qui nous a accompagnés hein, sur ce chemin d'interprétation depuis les premières heures avec les répétitions avec le pianiste chef de chant, les chanteurs, le metteur en scène.
Qu'on peut saluer d'ailleurs, parce qu'il a fait un travail formidable.
Oui, Miles Cleary Fox.
Et qui lui aussi va peut-être retravailler avec vous, puisque vous êtes un passionné de Wagner et que lui-même a déjà travaillé à Bayreuth.
Oui, la conjonction des planètes, c'est celle-ci aussi, c'est de rencontrer des êtres qui, sur notre route, semblent être là par hasard. Miles, c'est pas lui le chef de chant qui était pressenti, c'était donc la chef de chant. Très distinguée canadienne qui a préparé nos amis chanteurs. Elle était indisponible et il se trouve que Miles, qui est chef de chant à l'Opéra de Toulouse, est le chef de chant attitré, un des chefs de chant attitrés de Bayreuth depuis 2004.
Toulouse à vide de Patrick Burgan et Patrick Burgan l'a aussi croisé. Donc là aussi, alignement voilà. De planète entre voisins, on s'est croisé. J'ai envie de vous remercier tous les trois pour ce moment de radio assez exceptionnel. Et peut-être, c'était pas prévu, mais vous proposez de conclure librement, chacun votre tour, et que je vous questionne sur ce monde d'après qu'on mentionnait. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression d'être à la croisée des chemins. D'un côté, le grand Risette, qui est une forme de, on pourrait dire, de vie à la chinoise, avec une gestion très, très serrée des populations. Et puis, d'un autre côté, les artistes, ce que disait Éric Emmanuel Schmitt, c'est-à-dire on pourrait tous être comme ça, c'est-à-dire cette humanité, cette profondeur, ce lien à l'autre. Est-ce que vous avez l'impression, vous, tous les trois, et à votre niveau, et comment vous imaginez ce monde d'après? Est-ce que vous avez l'impression d'y participer? Et est-ce que les choses peuvent s'installer aussi simplement que notre échange de ce jour?
Moi, je crois que cette expérience, comme toutes les expériences négatives, elle nous appelle à être plus vivants. Parce qu'on a craint pour notre vie, parce que on a craint pour la vie des autres, parce qu'on a parfois perdu des gens dans cette crise du Covid, et moi ça a été mon cas dans ma famille. Bon, ben, je ne peux pas remonter le temps et changer les choses, mais j'essaye de tirer des leçons en me disant quel privilège d'être vivant, quel privilège de pouvoir aller au-devant des autres. J'ai une volupté de rencontres, de connaître des œuvres, de découvrir des artistes, de voyager. Enfin, le monde est frappé de beaucoup plus d'intensité parce qu'il m'a été interdit pendant un temps. Donc, moi, je me sens encore plus vivant qu'avant et je m'en réjouis. Et je n'ai aucune fatigue de vivre, au contraire. C'est comme si du temps m'a été enlevé, donc je suis beaucoup plus jeune.
C'est magnifique.
Patrick Bergeron. Oui, moi, je continue à vivre, évidemment, dans un optimisme un peu naïf, bercé d'insouciance, et toujours immergé dans le rêve et l'illusion. En fait, je pense que je vis complètement là-dedans et je continue à vivre là-dedans.
Et pour ma part, j'ai pris plus encore la mesure de l'urgence du partage et de la transmission. Et je vous en donne juste un exemple. Je rendais public toutes les répétitions que j'ai faites avec mes structures, que ce soit l'ensemble orchestral contemporain, l'orchestre symphonique. Avant encore. Okay. Et là, j'ai pris la mesure de ce rapport de l'art à la vie, du rapport existentiel, du partage de l'art pour créer l'unité, l'union, et je dirais un terme qui est fort, qui est la communion entre les êtres. Et donc, depuis les après-confinements, on a rendu toutes les répétitions publiques auprès de jeunes gens des quartiers, d'une jeunesse dite perdue, et qui sont venus écouter les répétitions de Salomé, de Strauss, avec les chanteurs et chanteuses à qui je demandais d'avoir cet échange verbal avec ces enfants, et de voir cette lumière dans les yeux, cet émerveillement de ces jeunes qui écoutent du rap et de la techno, à s'émerveiller à Strauss. Et je me dis que voilà, l'après peut être aussi très lumineux si les uns et les autres nous en donnons le désir, la peine et la mission.
Merci à tous les trois, merci Daniel Kafka pour cette belle conclusion, La Chauve chez les étoiles, votre ouvrage et puis votre participation à Enigma le mardi 22 novembre, la dernière chance de le voir, sinon il faudra aller au Québec pour voir votre composition, Patrick Bergeron. Merci à tous, merci Eric-Emmanuel Schmitt,
merci Eric-Emmanuel.
Votre temps est précieux, vous êtes en pleine promo de Soleil Sombre. Merci à tous les trois pour ce message d'espoir, cette conclusion sur le monde d'après qui n'était vraiment pas prévu, et pour l'humanité et le talent artistique que vous dégagez, ce partage qui vous est naturel. On vous souhaite bon vent à tous les trois et espérons que le monde d'après ressemble à ça.
Merci.
RPL.